Vous écoutez On lit pour vous.
Quand l'IA détecte le désespoir, un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 août 2024 dans la presse. L'intelligence artificielle pourrait aider les intervenants des lignes de prévention du suicide à mieux répondre à ceux qui appellent, selon une nouvelle étude montréalaise. L'algorithme détecte si la personne qui appelle est anxieuse ou fâchée et les changements dans ses émotions. Notre modèle d'intelligence artificielle, IA, a été entraîné avec des acteurs, explique Alaan Fissi, spécialiste de l'IA de l'Université Concordia, qui présentait ses résultats à une conférence en Californie à l'hiver 2023. Par la suite, il y a eu une performance de 74% pour identifier les émotions d'une personne qui appelait à une ligne d'aide pour les personnes suicidaires. L'information fournie par l'algorithme permet d'aider les intervenants à mieux identifier les émotions des gens qui appellent. Si on parle à quelqu'un en crise, on ne va pas nécessairement se rappeler qu'il y a 10 minutes, la personne était plus calme ou plus angoissée, explique Brian Michara, psychologue de l'Université du Québec à Montréal, UQAM, qui était parmi les fondateurs de Suicide Action Montréal il y a 40 ans et qui est co-auteur de l'étude. Ce sont des changements qui peuvent être graduels. Si un suicidaire est très angoissé ou anxieux, l'intervenant peut privilégier un ton de voix calme, dire des choses pour l'encourager à prendre son temps, ou essayer qu'il se sente plus à l'aise. Le but est d'aider les intervenants à être empathiques. L'empathie, c'est d'identifier les émotions, nous dit Brian Michara, puis d'exprimer que l'on comprend ce que la personne ressent. C'est difficile dans un contexte où les gens ne disent pas nécessairement comment ils se sentent. Il faut détecter les émotions par des mots, par un ton de voix. Est-ce que les intervenants vont aimer se faire conseiller par un algorithme? On n'a pas eu de commentaires négatifs, dit M. Nfissi. Mais dans un premier temps, ça pourrait être utilisé comme un outil d'entraînement pour reconnaître les émotions plutôt que durant les interactions avec les gens qui appellent. Les intervenants sont généralement ouverts à tout ce qui peut les aider, selon M. Michara. Des études ont montré qu'ils sont souvent plus négatifs dans l'évaluation de leur travail dans les lignes d'écoute que les gens qui appellent. Les appelants apprécient souvent plus le travail des intervenants que les intervenants eux-mêmes, souligne-t-il. Est-ce que dire à un appelant « Je crois que vous êtes fâché » peut augmenter sa colère? Ça dépend des cas, mais ça peut avoir un effet positif, dit M. Michara. Les programmes qui enseignent aux enfants à reconnaître les émotions des autres, par exemple, peuvent avoir des effets positifs sur les parents quand ils entendent leur enfant dire « Maman, t'es vraiment fâchée parce que j'ai fait telle chose ». Pourrait-on détecter le risque de suicide dans les messages textes ou dans les réseaux sociaux? Il y a déjà des recherches en ce sens. Et il se peut que les ordinateurs soient souvent aussi bons que les êtres humains pour déterminer le niveau de risque suicidaire, explique M. Michara. Mais il faut un humain pour poser la question, pour demander à une personne à risque quelles sont ses intentions. L'algorithme d'IA a été entraîné avec des données en anglais. Mais comme ses taux de succès relativement élevés ont été atteints avec seulement 12 heures d'enregistrement, il devrait être facile d'avoir une version en français, selon M. Nfissi. En savoir plus, source, INSPQ, 32 par 100 000 personnes, taux d'hospitalisation pour tentative de suicide chez les hommes au Québec en 2022. 53 par 100 000 personnes, taux d'hospitalisation pour tentative de suicide chez les femmes au Québec en 2022. C'était Quand l'IA détecte le désespoir, un texte de Mathieu Perrault, paru le 25 août 2024 dans la presse.
Qui a la santé a tout. Un texte de Louise Maudrioux-Soucy, paru le 17 août 2024 dans Le Devoir. Dans son monologue « L'argent », à la fin des années 1960, Yvon Deschamps avait trouvé une formule formidable pour traduire le rapport douloureux qu'entretenaient les Québécois avec la maladie. « Vaut mieux être riche et en santé que pauvre et malade », observait-il. En ce temps que les moins de 55 ans ne peuvent pas connaître, plus de la moitié de la population vivait sans assurance. Quand la maladie frappait, les affligés puisaient dans leurs économies ou s'en remettaient à la charité chrétienne ou à l'assistance sociale. C'est à cette époque que la nation québécoise prend conscience que l'avenir appartient aux nations qui soignent le mieux leur monde. De 1966 à 1972, la commission Castonguay-Neveu va réfléchir aux moyens de doter le Québec d'un système de santé digne de la modernité à laquelle il aspire. Très vite, ses commissaires concluent à la nécessité d'instaurer un régime complet et universel d'assurance maladie en complément à la déconfessionnalisation des hôpitaux et à l'instauration d'un régime d'assurance hospitalisation en 1961. Rappelons qu'en 1957, Ottawa avait offert aux provinces d'assumer la moitié de la facture d'un tel régime avant de récidiver en 1966 avec une formule semblable pour les services médicaux. Créée en 1969, la Régie de l'assurance maladie du Québec, RAMQ, administrera le régime universel d'assurance maladie institué en 1970. En 1971, la Loi sur les services de santé et les services sociaux, qui pourvoit à l'organisation générale des services, est sanctionnée. Notre système public était né, et ce, sans abuser des forceps. Cette fierté aura suscité une rare unanimité dans les foyers qui vont hélas déchanter. Incapable de choisir entre plus de coordination et plus de concurrence, nos gouvernements vont se succéder sans arriver à rompre avec deux péchés devenus capitaux, le tiraillement et la compromission. Si la main tendue par le fédéral a accéléré notre virage en faveur des soins universels, elle n'en aura pas facilité l'application. Sous le gant de velours d'Ottawa se cache une main qui adore les bras de fer. Les brouilles sur les transferts en santé deviendront vite une règle à laquelle les provinces vont se heurter à répétition. Souvent pour gagner trop peu, comme en témoigne la dernière victoire à la Pyrrhus arrachée par le gouvernement Legault. Ces disputes stériles s'ajoutent à une foule de pressions devenues pharaoniques. La médecine des années 1970 traitait surtout des épisodes aigus avec des moyens restreints. Celle d'aujourd'hui compte un arsenal autrement plus élaboré pour traiter des maux chroniques gourmands en ressources humaines, techniques et financières. Le Québec n'est pas le seul à affronter une explosion des coûts et des temps d'attente jumelés à des pénuries paupérisantes. C'est mondial. Mais il a fait des choix qui le plombent plus que d'autres. Mère de tous les bricolages bancals, la compromission à la Québécoise s'est fait sentir dès le jour 1, en accordant aux médecins le statut de travailleur autonome, en plus de leur réserver une rémunération à l'acte qui les avantage abusivement. Notre incapacité à trancher dans le vif aura aussi nourri un hospitalocentrisme devenu insatiable au point de sous-financer tous les autres programmes. On pense ici à la première ligne, à la santé mentale, aux soins à domicile, à la santé publique, aux services sociaux, tous en état grave de privation aujourd'hui. Or, les meilleurs modèles, qu'ils soient du Japon, des Pays-Bas ou de la Suisse, sont justement ceux qui ont su éviter ou renverser cette spirale infernale du mal-financement. défenseur des « bons soins par la bonne personne au bon moment », celui qu'on a baptisé le père de l'assurance maladie avait prescrit en 2008 plusieurs remèdes à nos maux. L'analyse de Claude Castonguay tient toujours en 2024. Le système a besoin d'un urgent rééquilibrage vers la première ligne, d'un allègement de ses structures et d'une révision en profondeur de notre panier de services, parti en roue libre. La refondation du ministère de la Santé, Christian Dubé, partage certains des objectifs nommés plus haut, mais pêche par excès de centralisation. Elle évite également de s'attaquer de front à la multiplication désordonnée des brèches au privé. Résultat, on a, en 2024, un système à deux vitesses en voie d'être bien implanté et parfaitement dysfonctionnel. La question est, veut-on y couper court? Si oui, le peut-on encore? Et comment? La santé est une chaîne. Tous ces maillons sont importants. Oui, il faut valoriser le travail en commun et de proximité, mieux le coordonner, briser les silos et redonner à ce milieu magané des structures saines, à hauteur des humains, autant pour les soignants que pour les patients, qui y cherchent trop souvent vainement une âme. Reste que le grand défi des prochaines années sera de déterminer ce qu'on entend de nos jours par soins universels et quels efforts nous sommes prêts à faire pour préserver l'équité d'un régime qui a jadis fait notre fierté. C'était « Qui a la santé a tout ?» un texte de Louise Maud Rioux-Soucy paru le 17 août 2024 dans Le Devoir.
Comment les fourmis parviennent-elles à porter des charges plus lourdes qu'elles? Un texte de Marine Sestez paru le 7 août 2024 dans Ça m'intéresse. Les fourmis, ces petits insectes d'à peine quelques millimètres, peuvent être un vrai fléau lors des pique-niques. Voleuses opportunistes, elles n'hésitent pas à se saisir d'un bout de nourriture de 3 fois leur taille pour s'enfuir avec. Mais d'où leur vient cette force? 8 milliards d'êtres humains sur Terre et 2,5 millions de fois plus de fourmis, soit la bagatelle de 20 millions de milliards. Autant dire que si ces petits insectes décidaient de dominer le monde, ils pourraient éjecter l'homme d'un simple coup de patte. Ces hyménoptères, grands comme un grain de riz, sont d'autant plus impressionnants qu'ils peuvent porter des charges d'une masse largement supérieure à celui de leur propre corps. Outre cette capacité remarquable, certaines espèces s'accrochent entre elles pour former des ponts vivants quand il s'agit de traverser un espace vide. D'autres aménagent une fourmilière avec air climatisé intégré jusqu'à 8 mètres de profondeur. D'autres encore sont des kamikazes à l'abdomen explosif et d'autres, enfin, se droguent au sucre de coléoptères. Les fourmis transportent tout type de nourriture dans leur fourmilière. Si les fourmis rentrent dans nos cuisines ou nos sacs de pique-nique, c'est pour s'octroyer de la diversité dans leur nourriture comme nous le ferions avec des bonbons. Dans la nature, on observe que les fourmis ont des régimes alimentaires variés. Il y a des carnivores qui mangent des insectes, souvent morts, des céréalières qui se nourrissent de grains, des herbivores ou champignonistes qui se servent de feuilles pour faire pousser des champignons, et celles qui se nourrissent de miellat, le plus souvent issus de leur propre élevage de pucerons. Toutes les espèces, cependant, ramènent leur nourriture dans la fourmilière pour subvenir aux besoins de la reine et du reste de la colonie, ce qui oblige chaque individu à porter quotidiennement de lourdes charges. Combien de fois son poids une fourmi peut-elle soulever de terre? Tout au long de leur journée et sur de grandes distances, les fourmis ouvrières ramènent inlassablement les vivres nécessaires à la fourmilière. Elles sont capables de porter 1000 fois leur propre masse. Une prouesse rendue possible par l'enveloppe rigide de leur exosquelette qui contient de puissants muscles et par un effet d'échelle et une loi de la physique selon laquelle plus l'organisme est de petite taille, plus il peut supporter un nombre de fois important sa propre masse. Fourmis, bousiers et papillons, des espèces d'insectes à la force incroyable. Si la capacité des fourmis à porter de lourdes charges tient en grande partie à leur morphologie, les ouvrières possèdent de premiers segments thoraciques plus développés que les autres, elles savent aussi s'entraider et travailler ensemble grâce à un habile système de communication pour porter jusqu'à 2000 fois leur masse. D'autres insectes sont tout aussi forts comme le bousier taureau, qui peut tracter 1141 fois sa masse pour séduire une femelle, ou la mythe Archegozetes longicetosus qui, dans un seul effort, peut soulever 1180 fois sa propre masse. Qui dit mieux? C'était « Comment les fourmis parviennent-elles à porter des charges plus lourdes qu'elles? » un texte de Marine Sestès, paru le 7 août 2024 dans « Ça m'intéresse ».
Madeleine Sévigny-Lantier, octogénaire et championne du monde. Une entrevue réalisée par Frédéric Charret, parue le 30 août 2024 dans la revue Virage. À l'adolescence, Madeleine Sévigny-Lantier nageait si bien qu'elle pouvait se permettre de rêver aux Jeux olympiques. La vie en a décidé autrement. 60 ans plus tard, la voilà de retour sur la scène internationale où elle rafle tout l'or sur son passage. Rencontre avec l'une des nageuses octogénaires les plus rapides du monde. Parfois deux, souvent trois fois par semaine, Madeleine se lève au petit matin, prend son maillot, son bonnet de bain, ses lunettes de natation et part s'entraîner au complexe aquatique de Mont-Tremblant. « J'aime nager, j'aime être dans l'eau », dit simplement celle qui a participé à trois des quatre derniers championnats du monde des maîtres nageurs de la Fédération internationale de natation, FINA. C'est justement près du bassin où elle perfectionne sa technique et où elle a redécouvert le plaisir de nager après une trêve de plusieurs décennies que nous la rencontrons, attablée avec son époux. « Elle est une sportive dans l'âme », fait valoir André Lantier. « Je suis aussi fière qu'elle, peut-être même un peu plus. » Rayonner parmi l'élite. Il y a certainement de quoi l'être. Depuis quelques années, la femme de sa vie rayonne parmi l'élite mondiale des maîtres nageuses. En 2023 et 2024, Madeleine a remporté un total de 9 médailles d'or sur la scène internationale dans la catégorie des 80-84 ans. Combien de records canadiens détient-elle? Une quinzaine? Une vingtaine peut-être? Elle ne le sait pas précisément, avoue-t-elle bien humblement. « Je ne suis pas de nature compétitive », poursuit la grand-maman de 4 petits-enfants. « Enfin, pas dans le sens de dire « je vais te battre, je vais t'écraser ». Mais elle concède qu'il y a une satisfaction de se mesurer aux autres. « Si j'arrive deuxième ou troisième, ce n'est pas grave. » « C'est sûr que c'est correct si je gagne, mais je vais être fière si je fais un bon temps. » Ça me replonge dans mes souvenirs. Lorsqu'elle parle de sa passion pour la natation, Madeleine aborde peu ses prouesses sportives, mais s'étend sur la camaraderie, les liens tissés avec les autres membres de l'équipe, le placotage pendant les entraînements. Le sport pour le sport, non merci. Comme le dit son mari, elle a besoin de rencontrer du monde, de vivre une vie d'équipe. Seule, je ne pense pas que je nagerai, avoue Madeleine. C'est tellement plus agréable en groupe. On organise toujours des soupers pendant les compétitions. C'est comme un retour à l'enfance. Ça me replonge dans mes souvenirs. Elle avait 11 ans lorsqu'elle a été recrutée par une équipe de natation dans le quartier montréalais de Notre-Dame-de-Grâce. C'est comme ça que j'ai commencé les compétitions. Et j'y ai pris goût. Ça changeait la routine. Trop forte pour son groupe, elle a intégré à 16 ans le prestigieux club sportif MAA, anciennement le Montréal Amateur Athletic Association, ce qui lui a ouvert la porte des compétitions de plus grande envergure et, ultimement, à l'équipe nationale. C'était une occasion inouïe pour l'adolescente qui rêvait de parcourir le monde. Ainsi, elle a visité Toronto, Washington, Calgary, Vancouver et, grâce à sa participation aux Jeux de l'Empire britannique et aux Jeux panaméricains, le Brésil et l'Australie. S'éloigner de la piscine. Elle aurait pu aller aux Olympiques, lance André, anticipant notre prochaine question. Son épouse acquiesce timidement, mais ajoute qu'elle était trop jeune en 1960 et trop peu préparée psychologiquement en 1964. Ce n'était pas nécessairement un but à atteindre. Peut-être que, parce que dans ma tête, il n'était pas atteignable. Je me souviens d'avoir été sur les blocs en me disant « Faut pas que je gagne, faut pas que je gagne ». J'aurais eu besoin de ce qu'ils ont maintenant, un psychologue sportif. À la suite du décès de son entraîneur, la nageuse a délaissé la piscine. Puis, au fil des ans, vers les études, le mariage, la famille, la carrière, les activités sportives de ses trois filles. Elle a aussi trouvé d'autres sports pour combler son besoin viscéral de dépenser de l'énergie, comme la raquette et le ski, qu'ils soient de fond, alpin ou nautique. « La natation ne me manquait pas, » dit-elle. « Ce n'était pas un sacrifice. C'était juste comme ça. » Sauter de nouveau à l'eau. C'est par hasard qu'elle est revenue dans le giron de la natation compétitive. À l'été 2016, sa fille Josée rencontre une dame qui souhaite créer une équipe de maîtres-nageurs au complexe aquatique de Mont-Tremblant, construit récemment. Elle lui a dit « Ma mère a déjà fait de la compétition. Peut-être qu'elle irait avec vous. » Josée avait visé juste. C'est sûr qu'au début, un jour, la benjamine de la famille, Marie-Hélène, se rend compte que ses résultats respectent les standards des championnats du monde, dont les prochains se dérouleront à Budapest en 2017. Sur un coup de tête, André lui propose de s'inscrire et d'en profiter pour faire un voyage en amoureux. Ensemble, ils s'envolent. Et Madeleine saute à l'eau. Dans le bassin, elle obtient des résultats au-delà de ses espérances, en se classant deuxième aux 100 mètres et troisième aux 50 mètres. De Fukuoka à Doha. En 2023, la maître nageuse décide de tenter à nouveau sa chance aux championnats mondiaux qui se déroulent cette fois-ci à Fukuoka, au Japon, reporté de 2 ans en raison de la pandémie. Malgré le coût exorbitant du voyage, elle s'inscrit à 4 épreuves et part à l'autre bout du monde en compagnie de sa fille Marie-Hélène. Elle reviendra au pays avec 4 médailles d'or au cou et la tête pleine de souvenirs. Les championnats du monde suivants étaient programmés quelques mois plus tard à Doha. Comme Madeleine avait pigé profondément dans ses économies pour aller au Japon, les chances qu'elle puisse s'y rendre pour défendre ses titres étaient quasi nulles. Mais coup de théâtre! Un mystérieux mécène, inspiré par un reportage de Radio-Canada sur ses exploits sportifs, lui propose de payer l'ensemble de son voyage. Grâce à cette offre inespérée, l'octogénaire s'envole vers la capitale du Qatar avec l'une de ses coéquipières du club de natation. On a été gâtés, se rappelle Madeleine, toujours aussi reconnaissante. Le voyage à Doha a été spectaculaire, tout comme ses performances dans la piscine. La nageuse a récolté une médaille d'or dans chacune des 5 épreuves auxquelles elle s'était inscrite. Un triomphe! Disons que j'en profite plus maintenant, confie Madeleine au sujet de sa renaissance sportive. J'en profite plus qu'au moment où j'aurais peut-être pu aller aux Jeux olympiques. Ce ne sont pas des Olympiades, et c'est sûr que ce n'est pas pareil, mais ce sont quand même des championnats du monde. Je refais un peu le même genre de parcours. Je vis le même genre d'expérience. Une source d'inspiration. Si Madeleine Sévigny-Lantier partage son récit exceptionnel, c'est surtout dans l'espoir d'inspirer les autres. Quand je regarde autour de moi, je réalise bien que je suis en bonne forme et que je fais des choses que d'autres personnes de mon âge ne font pas, reconnaît-elle. Mais elle ajoute que l'important n'est pas de gagner des médailles ni de faire de la compétition, mais de bouger, de repousser ses limites et d'atteindre son plein potentiel. Il ne faut pas avoir peur de reprendre un sport qu'on a aimé. Je me dis qu'en faisant de l'exercice, qu'en faisant ce qu'on aime, on peut préserver un minimum de santé, de vitalité, de compétences physiques et de liens sociaux. Compte-t-elle nager encore longtemps? Aussi longtemps qu'elle le pourra. En exemple, elle évoque une nageuse de Regina qui compétitionne toujours à l'âge de 99 ans. Et une autre, de Pointe-Claire, qui ne cesse d'établir des records à 89 ans. Les prochains championnats du monde des maîtres nageurs se tiendront à Singapour en 2025, encore à l'autre bout du monde. Est-ce que Madeleine y enfilera son maillot? Rien n'est impossible. Surtout si un autre mystérieux mécène se manifeste. En attendant un éventuel deuxième coup de théâtre, la nageuse continuera de se lever au petit matin, parfois 2, souvent 3 fois par semaine, pour aller s'entraîner dans cette eau qu'elle aime tant. C'était Madeleine Sévigny-Lantier, octogénaire et championne du monde. Une entrevue réalisée par Frédéric Charret, parue le 30 août 2024, dans la revue Virage.